Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui met en avant le savoir-faire français. Ce savoir-faire qui fait partie de notre patrimoine et qui participe à faire rayonner la France à travers le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose une émission qui devrait tout particulièrement plaire au bec sucré. On va s'intéresser à la confiserie française, aux bonbons made in France qui se portent bien. Vous les connaissez, ces bonbons qui font partie de votre quotidien, mais peu savent qu'ils sont français. Saviez-vous par exemple que le petit ourson guimauve enrobé de chocolat de votre enfance est né dans le nord de la France, à Ascq? Ou encore le carambar qui naît à Marc-en-Barœul, les têtes brûlées, les berlingots? Eh bien, ces bonbons ne connaissent pas la crise et mieux à l'export, c'est un succès également. C'est parti pour un C'est ça la France, tout en calories.
Sud Radio, C'est ça la France.
Mais tout de suite, intéressons-nous à un bonbon vieux de plusieurs siècles. Direction Flavigny-sur-Oserin, l'un des plus beaux villages de France, qui est également connu pour un bonbon. Petit indice en musique.
Les sucettes à la nuit d'Annie donnent à ses baisers un goût amusé. Personne ne se connaît.
Ah là là, les anis de Flavigny, un bonbon qui fait partie du patrimoine français dont l'histoire débute en 52 avant Jésus-Christ.
Sud Radio, c'est ça la France, le patrimoine du Made in France.
Bonjour Catherine Trouba.
Bonjour.
Vous faites partie de la troisième génération de la famille Trouba à diriger les anis de Flavigny. Vous êtes entourée de vos frères, hein, vos sœurs. C'est vraiment une histoire familiale. Hein.
Oui, ben c'était papa avant, grand-père. Et mais en fait, il y a eu du chemin entre les Romains 52 avant Jésus-Christ et aujourd'hui.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ces anis Flavigny, expliquez-nous à quoi ils ressemblent. Hein. C'est une petite graine d'anis vert.
C'est une petite graine d'anis vert qu'on enrobe délicatement de sirop de sucre. Ça ressemble à une petite dragée. C'est gros, comme un peu plus gros qu'un petit pois. C'est tout blanc, tout dur. C'est un bien bon bonbon.
Donc, on part d'une petite graine qui fait 2 mg et à force de l'enrober pendant plus d'une quinzaine de jours, on obtient un bonbon d'un gramme.
Voilà. C'est très long, ça se fabrique vraiment comme une dragée, mais au lieu d'avoir l'amande, c'est la petite graine d'anis. Et de ce fait, bah c'est long à fabriquer et minutieux.
Alors racontez-nous l'origine de ces bonbons qui datent de l'époque de Jules César.
Oui. Et ben en fait, c'est un Romain, Flavien, qui est venu au moment de la guerre des Gaules en Gaule et qui s'est installé sur notre petite colline. Il a laissé son nom Flavien Flavigny. Et la connaissance de la graine d'anis. Et longtemps après, des moines qui sont installés sur le même lieu, des moines bénédictins, ont eu l'idée d'en faire une dragée.
Donc ce sont ces moines qui ont fabriqué ce bonbon?
Probablement. Nobody knows, comme nous disent les Anglais. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que bien avant, en 1591, donc bien avant Henri IV, là, on a plein de traces écrites qui nous témoignent de des anis.
Comment vous expliquez le succès de ces bonbons, et ce, dès la Renaissance, Louis XIV, Madame de Sévigné, Madame de Pompadour, en raffolé?
Oui, c'est chouette. Mais en fait, les bonbons, dans le temps, il y en avait très peu. D'ailleurs, ça s'appelait des épices de chambre, puis une confiserie. C'est devenu bonbon tardivement, finalement. Ça plaisait bien parce que c'est quelque chose d'assez puissant en goût, assez chaud, la graine d'anis, c'est un bon parfum. Et c'était apprécié surtout par les adultes avant d'être connu comme un petit bonbon aussi pour les enfants.
Alors on parle de la graine d'anis, mais aujourd'hui il y a plusieurs parfums. Hein. C'est-à-dire qu'elle est bien là à l'origine, mais vous l'enrobez avec des sirops de parfums très différents.
Voilà, toujours des arômes naturels. Alors bien sûr l'anis, mais aussi le citron, le cassis, la menthe, la rose. Par exemple la rose, les Asiatiques adorent la rose, ainsi que les Polonais. Ou les Hongrois, c'est rigolo, le réglisse c'est très italien, on a des goûts un peu par pays comme ça.
Alors ce bonbon il s'exporte dans plus de 35 pays.
Et depuis on a fait encore mieux, on a une super Élodie et là on est dans 45 pays maintenant.
Oh là là, mais comment vous expliquez ce succès? Donc, finalement ça n'arrête pas. Hein.
Et ben, en fait on fait le tour du monde et on présente notre bonbon sur plein de salons à l'international et on rencontre des importateurs, en fait c'est un gros travail de préparation. Et ils sont nombreux, en fait, à avoir un petit coup de foudre pour notre boîte d'anis.
D'abord, ça, on va reparler de la boîte également.
Voilà. Mais c'est déjà la boîte qui les arrête. Puis après, ils goûtent. Et après, ils aiment.
La fabrication, elle se fait toujours dans les bâtiments monastiques?
Oui. Ben là, je suis dans l'abbaye. On est dans un petit village sur une petite colline qui a 500 mètres de haut, entourée de grandes pierres. On s'y sent bien. Et maintenant, deux pièces plus loin, il y a cette bassine en cuivre qui tourne comme ça depuis très tôt le matin. On commence à 3 heures et tout doucement, nos petits bonbons se forment.
Et la recette est toujours la même. Elle n'a pas changé.
Non, en fait, c'est une petite graine d'anis, du sirop, donc c'est de l'eau et du sucre, et l'arôme naturel qui s'enrobe autour de la graine, un peu comme, vous voyez, des boules de neige qui dévalent une pente.
Oui, bien sûr.
Et ils grossissent, et ils se lissent aussi comme des galets qui sont au bord de la mer. Et c'est comme ça que se forme notre bonbon. Mais il faut du temps.
Oui, il faut du temps. C'est une fabrication qui est restée très artisanale.
Oui. On ne peut pas automatiser ce métier parce qu'il y a plein de paramètres, la température, l'hygrométrie, la densité du sirop, la vitesse de rotation. Et ça, on a besoin de l'œil de l'homme, même de son oreille, parce qu'à l'oreille, on entend s'ils sont secs, si on peut continuer à les travailler ou pas.
C'est ce qui fait aussi le succès de ce bonbon. C'est ce côté artisanal, c'est ce patrimoine, c'est l'histoire de ce bonbon, c'est oui. Le fait qu'il soit fabriqué dans une abbaye encore aujourd'hui.
Oui, vous savez, il y a plein de gens qui viennent nous voir, on adore. Ils viennent voir comment on travaille, ils nous disent oui, ils nous ont vus pour la première fois, c'est sympa.
Alors il y a le bonbon, mais vous l'évoquiez à l'instant, il y a aussi la boîte qui est mythique. Alors les tout premiers emballages étaient en carton.
Vous en savez des choses, c'est génial. Oui, nos premières boîtes, c'était des étuis en carton, avec dessus un petit berger, une petite bergère, le berger proposant les bonbons à la bergère. Et en fait, c'est un peu la symbolique de la fécondité, vous savez, comme au mariage.
Les dragées.
Voilà. Ouais. Ou le riz qu'on envoie à la sortie du mariage, ou les confettis. Et cette gravure, on ne la change pas, elle nous suit. On a plein de choses qui nous guident. La qualité du bonbon, la qualité des ingrédients, et prendre toujours garde à les mettre dans des jolies petites boîtes.
Et ce serait dommage de les enlever, ces bergers, c'est un symbole d'amour. Finalement, l'anis flavini, c'est l'amour.
Voilà, c'est ce que nous disent les Chinois, par exemple. Ils nous disent, c'est vraiment une petite boîte de bonbons française. Ils s'aiment au bord d'une petite fontaine d'amour et d'eau fraîche. Quoi.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc les premiers emballages étaient en carton, et c'est votre aïeul, Jean Trouba.
Oui.
Quelle idée géniale, dans les années 50, de développer la vente via les distributeurs automatiques. Donc là, il faut changer le packaging.
Oui, parce que là, il faut pouvoir s'adapter, vous savez, aux petites tirettes là, qui nous résistent tant. Donc là, on a fait des étuis en carton carré, enfin un peu en taille de paquet de cigarettes, parce que tout le monde se mettait dans ce format-là. Mais c'était quand même une idée géniale. Il n'y avait que lui, donc que les anis de Flavigny et le chocolat Meunier, à être présent pendant au moins une dizaine d'années dans les distributeurs de gare et de métro. Et ça nous a énormément aidé à faire connaître notre bonbon.
Aujourd'hui, la boîte, elle est ovale.
Oui, elle est ovale. C'est une petite boîte en fer sur le dessus. Et elle est justement déclinée dans plein d'arômes différents. Et également déclinée avec soit du sucre de betterave, soit une autre gamme au sucre de canne.
Alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que depuis que vous avez ouvert un musée,
oui,
pour raconter l'histoire de ce bonbon, eh bien vous récupérez plein de choses de passionnés,
oui,
des personnes qui ont grandi avec ces bonbons, des boîtes,
oui,
mythiques.
Les gens m'écrivent ou ils m'envoient des cadeaux, des objets qui... Et en fait, c'est grâce à tout le monde qu'on est en train de reconstituer ce musée. Il y a une dame qui m'a rapporté la louche en cuivre que son mari avait reçue de mon papa. Et petit à petit, il y a un monsieur très âgé qui m'a dit « Mais moi, j'en ai un distributeur automatique. » Et je suis allée le chercher. Donc ça, c'est merveilleux.
On est en train de reconstituer le patrimoine autour de ce bonbon.
Oui.
Dernière petite question, Catherine Trouba. Comment est-ce qu'on les déguste? Alors, moi, je fais partie de ceux qui les croquent.
Oula.
Peut-être qu'il faut les sucer.
En fait, ça se prend deux par deux. Et vous les laissez rouler, glisser dans la bouche. Ça permet d'envahir tout le palais. Et puis, si vous les croquez, ils sont quand même durs. Hein.
Donc, moi, je suis impatiente, ils sont tellement bons.
Oui. Alors, les bonbons, hein, ça se mange avec modération, parce que
c'est bien de le rappeler.
Sucre. Mais c'est quelque chose qui est très agréable. Et puis, comme il est justement tout dur, vous avez le temps. On a mis 15 jours pour les faire, vous vous rendez compte?
Ouais.
Il ne faut pas les croquer comme
oui,
ça.
Oui, vous avez raison, je les mangerai différemment désormais. Merci beaucoup Catherine Trouba. Je rappelle que vous êtes à la tête des Anis de Flavigny, une très belle entreprise patrimoniale qui a d'ailleurs le label Entreprise du patrimoine vivant.
Merci
beaucoup. Catherine Trouba.
Merci.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France.
On se retrouve dans un instant pour évoquer un autre bonbon de notre patrimoine. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Sud Radio dans C'est ça la France, consacré aux bonbons made in France. Après les années de Flavigny, place aux spécialistes du bonbon en sucre cuit. Avec entre autres les incontournables petits berlingots, les sucres d'orge, il s'agit de l'entreprise Kubli. Là encore, une belle success story made in France.
Sud Radio, C'est ça la France, le patrimoine du made in France.
Et pour en parler, Gilles Duhaut, à la tête de la société Kubli depuis 2009. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Est-ce que je prononce bien votre famille? C'est Duhaut ou Duholt?
On peut dire Duhaut en général, mais c'est vrai qu'en Bretagne, puisque je suis originaire du centre Bretagne, on le prononce Duholt.
Eh bien, on ne va pas froisser les Bretons. Bonjour Gilles Duholt.
Merci.
Alors, c'est d'ailleurs à vous que l'on doit ce beau succès. L'entreprise Kubli a été créée en 1900. Oui. Elle fait partie de ce patrimoine français. Vous l'avez rachetée en 2009 alors qu'elle était au bord de la faillite. Vous lui avez donné un nouveau souffle. Aujourd'hui, Kubli produit en moyenne 600 tonnes de bonbons chaque année. C'est impressionnant.
Oui, c'est impressionnant parce qu'on est entre l'artisan et l'industriel. Donc 600 tonnes, ça paraît beaucoup, mais par rapport à des très gros faiseurs, on est encore petit. Et on fabrique surtout des bonbons traditionnels qui sont sur un marché assez étroit quand même, malgré tout.
Oui, la fabrication là encore est restée artisanale, c'est ça. C'est un métier de confiseur.
Voilà, exactement. On est dans la pure tradition de la confiserie française. Du reste, on est entreprise du patrimoine vivant. Donc, on a été labellisé par
l'État, qui montre à quel point votre savoir-faire est précieux, rare et rare.
Merci. Oui, en effet, non, mais c'est un petit peu l'objectif, c'est de mettre en avant des savoir-faire que beaucoup de pays nous envieraient. Hein, on a la chance d'avoir en France encore une tradition, alors que ce soit en pâtisserie ou en confiserie ou même en gastronomie en général. On a dans toutes les régions de France des gens qui font des produits magnifiques, comme en Bretagne, c'est tout ce qui est caramel, il y a les calissons, les nougats,
les bêtises de Cambrai.
Les anis de Savigny, vous en avez parlé. Bref, il n'y a pas une région en France où il n'y a pas des savoir-faire.
Il existerait plus de 600 spécialités de confiserie française, plus que nos fromages.
Oui, c'est fou. C'est fou ce qu'on arrive à pérenniser en France, et il faut être fier de notre patrimoine.
On peut dire que c'est un savoir-faire typiquement français, la confiserie.
Oui, en France, on a vraiment une grande tradition, mais c'est vrai qu'aussi, un peu en Italie et en Espagne aussi, mais la France est vraiment le pays de cette diversité de la confiserie, oui.
C'est un métier compliqué, celui de confiseur?
Alors, il est à la fois simple et compliqué, parce que quand on regarde notamment nos recettes, nous on fabrique uniquement du bonbon de sucre cuit, c'est du sucre qui vient essentiellement de la betterave, mais qui peut venir aussi de la canne à sucre. Ensuite, on y rajoute aussi du sirop de glucose de blé, donc c'est tout ça, c'est d'origine végétale. On a pour certaines recettes des colorants naturels, qui peuvent être des huiles essentielles notamment, et puis des arômes naturels aussi. Voilà, donc tout ça c'est mélangé, c'est des recettes assez simples. La seule chose, c'est qu'il faut en permanence être très soucieux de la température.
Le sucre c'est un métier de précision.
Voilà, exactement. On cuit à 140 degrés, mais après, il faut qu'on fasse tomber la température très doucement pour arriver sur les différentes presses et faire le produit comme il doit se faire. Donc, en apparence, c'est simple, mais dans la réalité, c'est très compliqué. Il suffit d'une petite erreur et tout part dans tous les sens. Voilà.
C'est un métier où la transmission est importante, j'imagine. La formation également. Ça se fait en interne chez Kubli?
Oui, alors effectivement, nous on a des apprentis et on essaye de former. On a quand même un souci en France et notamment chez nous, c'est de réussir à trouver des gens qui acceptent d'apprendre un métier. Et ça dure longtemps, il faut 1 an, 2 ans pour maîtriser le sucre. Donc il faut être patient, c'est des productions très manuelles, donc il faut des gens qui soient engagés physiquement. Donc c'est pas toujours très simple de trouver du personnel pour pérenniser ce savoir-faire.
Alors racontez-nous comment on fabrique par exemple le fameux berlingot. Faites-nous rêver, expliquez-nous qu'on puisse l'imaginer.
Alors effectivement, le berlingot, c'est un très très vieux bonbon. C'est d'ailleurs un des plus vieux bonbons qui est fabriqué en France. À l'origine, on peut remonter au XIIIe siècle avec le pape Clément V qui siégeait à l'époque à Avignon. Et il avait un pâtissier qui s'appelait Sylvestre qui avait mélangé, est-ce que c'était un hasard ou est-ce que c'était une volonté, différents produits. Et il avait créé cette recette. Maintenant, aujourd'hui, on en trouve donc à Carpentras, pas loin d'Avignon. Et puis aussi, il y a eu un développement important du berlingot dans la région nantaise. Alors pourquoi? Oui, parce vrai. Que Nantes était un port sucrier important. C'était de Nantes qu'arrivaient les bateaux en provenance des Antilles, où il y avait du sucre. Et donc, il y a une tradition aussi du bonbon, et notamment du berlingot du côté de Nantes. Maintenant, nous, on en fabrique pas mal, hein. On en fabrique à peu près 40 tonnes par an. La moitié est exportée un peu partout dans le monde, notamment en Chine, au Japon, en Corée, aux États-Unis. Donc il faut savoir que les consommateurs ou les gourmands du monde entier apprécient cette recette bien française. Voilà. Alors, ce produit, il a une forme un peu particulière, un peu trapézoïdale, hein, et il est... dans la majorité des cas, il a des petites rayures blanches.
Bien sûr, oui, c'est comme ça qu'on le reconnaît d'ailleurs.
C'est comme ça qu'on le reconnaît. Alors, nous, on travaille le produit sur, donc, comme je le disais tout à l'heure, à base de sucre, de sirop de glucose, arôme et colorant naturel. Ça, donc, on lui donne différents goûts et donc différentes couleurs. Et les bandes blanches sont faites avec ce qu'on appelle du sucre battu. C'est-à-dire qu'on prend du sucre cuit et ensuite on le met sur une batteuse qui va oxyder la pâte et qui va la rendre blanche, presque nacrée. Ensuite, il y aura un travail de découpe comme de la couture. D'ailleurs, on utilise des grands ciseaux sur une grande table chaude et on fait ce qu'on appelle, nous, un montage de couleurs sur des grandes tables.
Donc la découpe se fait de façon manuelle ?
Ah oui, complètement. Chez nous. Chez nous, d'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est vraiment un travail manuel. Et il y a une chorégraphie autour de cette fabrication qui se pérennise depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est exactement le même geste qui est reproduit pour alimenter la machine qui va, une berlingotière un peu mécanisée maintenant, et qui va donner la forme du bonbon.
Vous en parlez avec beaucoup de passion et pourtant vous n'êtes pas confiseur de formation. C'était tout nouveau pour vous, cet univers.
Oui, enfin j'ai toujours travaillé dans l'agroalimentaire, mais là je suis tombé sur une entreprise qui avait un savoir-faire énorme, 118 ans d'histoire, avec une somme de matériel assez étonnant. On a énormément de cuivre, de bronze, on a des machines assez incroyables. Et puis il y a un savoir-faire... Comme on disait tout à l'heure, l'homme a une part importante dans cette production. Donc il y a des gestes qu'il faut savoir maîtriser. Et c'est un travail en commun. Ce sont des équipes qui travaillent ensemble. Il faut bien s'entendre, il faut bien synchroniser. Mais les gens qui viennent visiter sont toujours à la fois surpris et étonnés de voir qu'on fabrique ces produits-là encore manuellement. Quoi.
Eh bien moi, j'invite les auditeurs de Sud Radio à aller visiter l'entreprise Kubli. Merci beaucoup, hein, Gilles Duolt.
Merci.
C'était vraiment passionnant de vous écouter. Et je rappelle que la moitié de votre production part à l'export, pour dire à quel point ces bonbons, eh bien, ils rencontrent un franc succès à l'international. Donc encore un bel exemple de bonbons artisanaux de qualité. Merci beaucoup, Gilles.
Merci.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France.
Allez, il est temps d'aller se balader dans les coulisses de nos entreprises françaises pour vous donner des petites idées de visites à faire. Tiens, pourquoi pas ce week-end ? C'est parti.
Sud Radio, c'est ça la France. Le tourisme des savoir-faire avec Thibaut le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Bon, je suis sûre que vous allez nous proposer une belle spécialité régionale. Entre les calissons d'Aix, les bergamotes de Nancy, les caramels d'Isigny, le nougat de Montélimar, alors... Qu'est-ce que vous nous proposez ?
Eh bien, je vais vous parler d'un plaisir sucré qui est classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et savez-vous, c'est aussi une spécialité qui fait la fierté du Nord-Pas-de-Calais.
Ah, est-ce que vous avez une idée ? Les chucs du Nord, non ? Le nougat ?
Vous approchez ?
Le bablut ?
Non. Non, allez, je vous aide. C'est un petit coussin de sucre cuit, aromatisé à la menthe et décoré d'une rayure de caramel pour en adoucir le goût.
J'ai trouvé. Ça ne viendrait pas de Cambrai, ça ?
Ah ouais.
Les bêtises.
Vous avez compris, les fameuses bêtises de Cambrai. Je vais commencer par vous en raconter l'histoire, parce que c'est un bel exemple de sérendipité.
Alors, sérendipité, il faut dire ce que ça, faut préciser ce que ça veut dire. Hein. C'est le fait d'inventer quelque chose un peu par accident,
ouais, c'est ça,
par hasard.
Par hasard, ouais. Bah, c'est un peu comme quand la tarte tatin, qui n'était pas censée se renverser. En gros, on trouve quelque chose alors qu'on cherchait à faire autre chose. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé il y a presque 2 siècles à Cambrai. Je vous raconte la scène. On a un jeune apprenti d'une confiserie de la ville. Il renverse par erreur de l'arôme de menthe dans la préparation pour des berlingots. Il se fait gronder par son patron qui lui dit d'arrêter de faire des bêtises. Bon, mais pour pas gâcher la production, les bonbons sont quand même vendus et les clients adorent, ils en redemandent.
Elle est incroyable cette histoire.
Incroyable.
Est-ce qu'on peut visiter la confiserie où cette première bêtise de Cambrai a été fabriquée par accident ?
Eh bien, c'est là que les choses se compliquent parce qu'il n'y a pas une, mais 2 maisons qui revendiquent cette histoire et donc la paternité des bêtises. Alors, vous avez la confiserie Afchin qui est restée juste à côté de Cambrai. Mais vous pouvez aussi visiter la maison d'Épinois qui a déménagé dans une commune voisine à Fontaine-Notre-Dame.
Mais alors, laquelle il faut aller visiter, Thibault ?
Les deux, mon capitaine. Si vous avez le temps, je trouve que ça vaut le coup de visiter les deux. D'un côté, Afchin, bah, c'est une belle usine qui fonctionne très bien. Vous pouvez y voir des machines ultra performantes qui valent le détour. De l'autre, on a d'Épinois, qui est un atelier qui est un peu plus familial. Puis surtout, qui a gardé ses équipements traditionnels en cuivre. Bon, allez, j'ai peut-être un petit fait pour d'Épinois, qui est aussi une EPV.
Ah, une entreprise du patrimoine vivant. Assez rapidement, comment on les fabrique, ces bêtises, bon, les ingrédients de base ?
Les ingrédients de base, ça commence avec du sirop de glucose, puis un peu de sucre et un peu d'eau. On fait bouillir, enfin, beaucoup d'eau même, on fait bouillir tout ça dans un grand chaudron. Mais le secret de fabrication, c'est un peu plus tard, quand on fait passer la pâte dans une machine qui s'appelle l'étireuse. Et c'est là que le bonbon prend cette texture. Je ne sais pas si vous connaissez les bêtises, c'est à la fois léger, c'est à la fois aéré.
Oui.
Et puis on ajoute ensuite, bien sûr, l'huile essentielle de menthe, sans oublier la petite ligne de caramel qui fait la signature de la bêtise.
Merci beaucoup Thibault pour cette belle idée de visite. Et la recette, en plus, elle est inchangée depuis le fameux loupé de notre apprenti.
Exactement.
Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie tout au long de cette émission, tout en sucre, tout en calories. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est ça la France.
Sud Radio, C'est ça la France.